pas vraiment ses vraies vannes. On ne sait pas très bien à quel degré le prendre. Je trouve ça quand même très très drôle. Tout ça pour vous demander, oui. Ce n'est pas une question orientée, si de temps en temps, vous avez l'impression de vous-même céder à quelques facilités, de tomber dans quelques automatismes, de tourner en rond.
D'où les co-auteurs. Parce que justement, j'ai parfois envie qu'on me dise « Non, mais celle-là, elle est moins bonne » ou « Celle-là, on l'a déjà faite » ou « Celle-là, elle est trop facile ». Mais oui, je le confesse volontiers. Mais ce qu'il fait là, ça s'appelle du crowd building, c'est-à-dire construire le public. Quand le public n'est pas à vous, il faut aller le chercher. Mais Bergson disait, je dis dans mon spectacle, une chute est toujours une chute. C'est-à-dire quelqu'un qui tombe, c'est toujours marrant. Mais c'est pas la même chute si c'est Don Quichotte qui vise l'étoile et qui, en visant l'étoile, tombe dans le puits. C'est plus beau, c'est plus noble que le type qui voit pas la bouche d'égout. Donc on a une boîte à outils d'humoriste qui est remplie de ficelles, des raffinées, des petites, des grosses. Et ce qui fait votre totalité, c'est l'utilisation de chacune d'elles. Et donc, je tiens à être populaire dans le sens du grand nombre. De nouveau, ce n'est pas tant pour vendre plus de billets de spectacle. C'est parce qu'il n'y a pas de raison que je m'arrête à tel rire de qualité ou tel rire n'est pas de qualité. Donc, de temps en temps, je me fais plaisir d'une ficelle un peu plus grosse. Et à la sortie de mon spectacle, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui viennent me dire « Oh, quand vous parlez de Bergson, vous devriez en faire plus ». Et d'autres gens qui viennent me dire oh, la vanne sur Pamela Anderson et tout ça, ça c'est marrant. Et donc je me dis, si j'ai mis ces deux personnes-là dans la salle, qu'ils ont tous les deux passé un bon moment en se disant chacun, voilà, ça c'était plus pour moi, ça c'était plus pour quelqu'un d'autre, c'est mon petit côté compromis.
Est-ce qu'il y a de la concurrence dans le milieu? Je me demandais si vous voyez éventuellement arriver un humoriste qui a à peu près le même profil que vous, qui est jeune, qui est talentueux, vous vous dites, super, un nouveau copain, ou merde, je vais devoir mettre de la morora dans sa tasse de café.
Je déteste Guillermo Guise.
Je comprends, mais il fait peur à beaucoup de gens.
Mais non. Moi, je pense c'est Walter qui m'avait dit ça. Il dit notre vrai concurrent, c'est pas l'autre humoriste, c'est la console de jeu, le stade de foot, le cinéma. C'est-à-dire que si
ou c'est un discours un peu politique.
Non, c'est-à-dire que si quelqu'un va voir Guillermo Guise et qu'il passe un bon moment, il viendra sans doute me voir en spectacle après. Non. Moi, je suis très très client de mes camarades, j'ai accepté.
Mais c'est rare ça.
Ah, j'adore ça parce que je trouve
beaucoup d'humoristes ne rient pas aux vannes des autres.
Alors, j'ai pas dit que je riais, mais j'aime bien les voir. Bon, c'est difficile d'être surpris. Hein. Ma mère, elle fait de la chaussure. Quand elle rentre dans un magasin de chaussures, elle attrape la chaussure, elle la retourne pour voir comment elle est faite. Moi, c'est un peu ça que je fais quand je vais dans les spectacles d'humoristes. Je me mets au fond et je regarde comment c'est fait, comment il prend les gens, de quoi il parle, comment il en parle. Pour ça, Guillermo a une plume très très originale et variée qui tend vers un absurde que j'admire assez, que j'aimais beaucoup chez François Rollin, que j'aimais bien chez Arnaud de sa mère, peut-être encore plus chez Ben. Donc ces gens-là, moi j'aime les voir. Yves Duteuil disait, je suis désolé de citer certaines références, mais quand Renaud sort un album ou Souchon, je me précipite pour l'acheter parce que ça me donne envie d'écrire.
Eh ben, je sais avec Marc Lévy, moi, c'est que les gens sont très mauvais, ça me donne envie.
J'ai un peu ça, il faut choisir ses références. Ouais. Mais non, j'ai un peu ça. J'ai un peu ça, donc moi je suis très très client, plus ils sont nombreux, mieux c'est. Et puis, de nouveau, si on est le meilleur alors qu'il y a trois humoristes, c'est con. Et si on se bat pour être le meilleur alors qu'on est beaucoup, c'est plus valorisant.
Alex, on est arrivé à ce moment de l'émission où vous arrêtez de parler et où c'est moi qui vous parle. Je vous raconte une histoire qui n'a rien à voir avec vous, mais qui pourrait peut-être éventuellement vous intéresser. Cette histoire, c'est celle de Dorothy Parker. Écoutez. Critique à la plume incisive, poète désabusé et alcoolique notoire, Dorothy Parker fut décriée autant qu'admirée. Dorothy Rothschild naît à la fin du 19e siècle dans le New Jersey. Visiblement prédestinée à la tristesse, elle perd ses parents alors qu'elle n'a pas 20 ans. Seule et sans ressources, elle survit en donnant des cours de piano avant d'être engagée chez Vanity Fair, à qui elle envoie ses premiers poèmes. Elle y officie en tant que critique littéraire et théâtrale, mais n'y reste pas longtemps. Son humour impertinent, son avis à contre-courant et son style incisif sont manifestement trop acerbes pour le magazine qui la licencie. Ses premières années de travail lui auront toutefois suffi pour se faire un nom dans le milieu. Elle est l'une des plus belles plumes de l'époque et est reconnue comme telle puisqu'elle intègre la très privée Table Ronde de l'Algonquin. Surnommée le Cercle Vicieux, ce club informel réunit les meilleurs écrivains et acteurs des années 20 et influence ceux qui n'y sont pas conviés. Dorothy est placée sur un piédestal par les intellectuels, se rapproche de Scott Fitzgerald et peut se permettre d'être détestée par Hemingway. Aussi brillante qu'instable, elle écrit autant qu'elle boit. Il ressort de la plupart de ses œuvres un pessimisme et un mépris non dissimulés pour la société. Elle signe des recueils tels que « Hymne à la haine »,« Mauvaise journée demain » et « Détruira l'image du couple idéal » dans « La vie à deux ». Mariée elle-même à deux reprises, elle ne gardera de ses unions que son nom, Parker. En plus d'écrire des nouvelles, des pièces de théâtre et des recueils de poèmes, elle est auteure pour un Hollywood qu'elle méprise. En 1928, elle est en lice pour l'Oscar du meilleur scénario avec le film Une étoile est née. Comme pour souligner sa carrière brillante mais sans point culminant, ce trophée lui passe sous le nez, même si le film en remporte deux. C'est pourtant la seule récompense qu'elle aurait pu espérer puisque ses convictions politiques viendront entraver toute possibilité de reconnaissance future. Dans les années 50, elle se lie vaguement à la cause communiste en cofondant la Hollywood Anti-Nazi League. En plein macartisme, son nom rejoint forcément les blacklistés du cinéma. Finalement déclarée inoffensive, elle reprend le stylo pour des chroniques satiriques dans le New Yorker, mais la fin de sa vie ne sera qu'amertume. Elle envoie au diable ses vieux amis du cercle vicieux et se moque de ses scénarios passés. Elle n'écrit plus, ne sort plus de chez elle et ne prend même plus la peine de tenter de se suicider, elle qui avait pourtant tant essayé. C'est finalement une crise cardiaque qui aura raison d'elle en 1967, alors qu'elle a pour unique compagnie son chien et une bouteille de vodka. On raconte qu'elle mourut tellement seule que c'est son notaire qui garda ses cendres pendant plus de 20 ans. Personne ne les avait réclamées. Encore un tout petit moment à passer avec Alex Vizorek dans Coupé au montage. Vous la connaissiez, je suppose, avec votre grande érudition, Dorothy Parker.
L'histoire du cinéma et toute cette histoire du macartisme, ça c'est assez passionnant. Mm-hmm. Si je dois retenir un mot, c'est amertume, mais j'espère que jamais c'est un qualificatif qu'on me collera. C'est vraiment un truc qui m'angoisse, c'est qu'à un moment je sois aigri.
Mmh. Mais justement, moi j'avais envie de vous parler d'un truc un peu déprimant.
C'est pour ça que
parce que vous êtes d'une grande opacité, Alex Vizorek.
Oui.
Vous êtes un enfant de cœur, vous êtes le gendre idéal. Je me dis, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Un type enjoué, sympathique, qui ne se fâche jamais avec personne, qui ne dit jamais de mal de personne, qui a une énergie vitale très puissante. C'est pas possible. Si, c'est possible.
C'est-à-dire que je suis du genre à regarder le plongeoir, à monter sur le plongeoir et aller jusqu'au bout du plongeoir pour regarder et me dire je ne sauterai pas. Et redescendre, ne pas être gêné à l'idée de redescendre. C'est un peu ça avec l'introspection sans doute. Malgré tout, j'ai quand même, je pense que je suis cette personne positive. Il m'arrive d'être triste, de me questionner. Je pense que les larmes, c'est un sport individuel. Je n'ai pas envie de les partager. Si je pleure, c'est...
Tant ici, ce serait bien. Ça pourrait grandir l'audience de cette émission.
L'audience, mais je vous demande pardon de toujours... Et je découvre ça dans pas mal d'humoristes. Chez Jérôme de Warzé, j'avais vu ça. Chez Daniel Morin, j'ai vu ça. C'est des gens qui bottent en touche. Et quand on arrive vers la plaie, on se retourne pour qu'on ne tombe pas sur la plaie. Et donc, on fait une vanne. On tourne à la drôlerie. Et on ne veut pas aller vers ce qui nous est sans doute dur et ce pourquoi sans doute on fait ce métier. Mais là, je fais moi-même de la psychologie de comptoir sur moi-même parce que si j'avais la réponse, c'est peut-être bien que je l'aurais cherchée, mais je ne veux pas tellement la chercher.
Mmh, c'est ce qui me semblait. J'ai encore une toute dernière question pour vous, Alex Vizorek. Si tout devait s'arrêter pour vous aujourd'hui, imaginons, vous vous ringardisez à vitesse VV'. Vous faites un affreux bad buzz, vous êtes blacklisté. Le cauchemar, partout. Même ici, qu'est-ce que vous feriez, à votre avis, dans la vie ?
Je dis souvent que je travaille beaucoup pour très vite aller prendre ma retraite en Toscane et sortir les pinceaux et peindre, parce que je ne peins pas bien. Et donc, je trouverais ça chouette, que ce soit mon violon dingue, de prendre ce temps-là, de prendre le temps du repos, du recul, et de me dire que j'ai fait ce que j'avais à faire, de passer le témoin. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir le décider moi-même. Si maintenant arrive tout ce que vous avez dit et que je suis contraint de le faire... J'espère que je serai toujours cet homme positif qui se dira « Eh ben voilà, très bien, je suis déjà beaucoup plus haut que ce que je n'aurais rêvé être. » Donc c'est pour ça que je profite massivement de tout ce qui m'arrive. Alors j'ai ce petit regain d'ambition qui se dit « Tant qu'on y est, regardons encore la marche d'au-dessus. » Mais en regardant la marche d'en dessous, je me dis que voilà, je suis content d'être moi. Ça peut paraître prétentieux, mais non. C'est vraiment positif parce que tout à un moment, je n'étais pas très content d'être moi. Je me sentais un peu... inutile même vis-à-vis de moi-même. Et là, ça, c'est quelque chose que j'ai plu. Donc peut-être je retomberai là-dedans si tout ça arrivait.
Merci beaucoup, Alex.
Merci à vous.
C'est un grand plaisir.
Moi aussi.
C'est l'occasion de souligner aussi, minute promo, que votre livre Chronique Antalis, grand succès de librairie, est enfin sorti en poche.
Enfin, j'ai point.
Voilà. Eh bien voilà, c'est tout pour nous, c'est la fin de cette émission. On fait des gros bisous à Laurent et à sa patte folle, des gros bisous à Patrick et à son divin enfant qui vient d'arriver. On remercie très fort les remplaçants. Bravo à toute l'équipe pour le travail qu'elle a là-bas en coulisses chaque semaine. Big up spécial à Fanny Ruet cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée.